Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
La grève, ah, la grève, quand pourrais-je enfin l'atteindre ? Je marche, je marche, je marche en enfer sur des pavés de bonnes intentions et je ne vois rien venir. Je m'étais pourtant bien documenté, mais je ne vois rien venir sauf des drapeaux qui rougeoient et des écolos qui verdoient. Ah, la grève, quand pourrais-je enfin l'atteindre ? On m'avait dit à la télé qu'elle était là, toute proche, à portée de slogans, qu'elle était inévitable, qu'elle était immuable, aux limites de nos errances terrestres, qu'elle ouvrirait nos vies sur des horizons radieux. Mais depuis des lustres, je marche, sans la rencontrer. À la grève, quand pourrais-je enfin l'atteindre ? Il n'est, paraît-il, pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, et fort de cet adage, j'avais fait le plein d'essence, enfin, l'essentiel, quoi. Mais comme j'étais sur la réserve, j'ai pris mes précautions. J'ai une route à faire et un but à atteindre, rejoindre la grève et embarquer pour des lendemains qui chantent. Mais la grève, oh la grève, quand pourrais-je enfin l'atteindre ? Je finis par rejoindre une file d'attente. Enfin, je n'étais plus seul dans cette quête d'ordinaire, et c'est avec aplomb que je suivis au pas celui qui me précédait. Nous étions ainsi toute une théorie à espérer les quelques gouttes qui nous permettraient d'atteindre notre but commun. Mais une voix intime me serinait in petto. Ah, la grève, quand pourrais-je enfin l'atteindre ? Cette question trouva sa réponse quand nous nous retrouvâmes presque à sec sur une grande place sans possibilité de nous en échapper. À court d'énergie, notre désespoir fut grand et la panique totale. Et dire que nous voulions atteindre le littoral pour des embarquements joyeux, et voilà que nous nous retrouvons coincés dans une nasse à la merci des exécuteurs des basses œuvres et du grand capital. Nous avions atteint la grève, certes, mais nous étions maintenant place de grève.
On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance, on avance, on avance, tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense.
D'accord, et c'est ce que nous allons faire. Allez, en piste. C'est Jean-François Rechner qui commencera le spectacle avec un caillou dans ma chaussure. Il sera suivi par La Goutte, à propos épicurien et légèrement alcoolisé de William Fourchet. Et nous terminerons avec Mag, qui nous dira un conte indien qui a pour titre L'Arbre. Mais on va d'abord s'écouter une chanson d'Anne Sylvestre, c'est pas difficile.
Se retrouver dans la rue, pas difficile. Honte de sa main tendue, pas difficile. C'est comme l'envers d'un jeu, une cascade, où on glisse peu à peu des gringolades. Il suffit d'un matin gris bien ordinaire, d'une lettre qui vous dit y a rien à faire. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer. Faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Dormir sur un coin de quai, pas difficile. une inscription à la craie, pas difficile. Plus de maison, plus de chaux et plus de place. On ne donne pas de boulot à cette crasse. Plus de boulot, plus de sous et plus de piolle. C'est une histoire de fou, pas vraiment drôle. On ne peut pas vous laisser, car le métro va fermer. On ne peut rien vous donner pour que vous alliez vous saouler seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Se retrouver en prison, pas difficile, votre mère avait raison, pas difficile, prendre un peu ce qui est là, qui fait envie. Et qu'on ne vous donne pas, vive la vie. Vous glissez sans le savoir, drôle de drame. Au filet du désespoir pour quelques grammes. On ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous soigner. On ne peut pas vous pardonner, faudra vous habituer seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Passer sans se retourner, c'est trop facile. Dire qu'on n'a pas à donner, c'est trop facile. Penser qu'on est différent parce qu'on est propre. Quand le malheur mécontent nous apostrophe, c'est ignorer qu'un matin, demain peut-être, on peut la tenir en main, la triste lettre. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer, il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense, j'y pense, j'y pense, j'y pense.
Anne Sylvestre, qui nous a quittés le 30 novembre 2020, à l'âge de 86 ans. Mais Jean-François Rechner, qui sort à peine de l'adolescence, nous rappelle qu'il est urgent de se débarrasser des cailloux, surtout quand ils sont dans sa chaussure. Jean-François Rechner.
Hier, je sortis de chez moi, bravant le froid matinal pour aller chercher mon journal chez un vendeur de bon aloi. Après à peine plus de 3 pas, une douleur sous le pied droit me stoppa tout net. Impossible de marcher, pied trop sensible. Imaginez mon désarroi, privé de mon canard quotidien, déconnecté du reste du monde, du magnifique comme de l'immonde, être au courant, il n'y a plus moyen. Bon, je compris rapidement. Un traître caillou, dans le soulier qu'il trouvait si hospitalier, causait tous mes emmerdements. Vite, j'ôtai le morceau de roche intrus, je le lançai en l'air au lieu de le mettre dans ma poche. Surpris par sa course linéaire, jamais l'objet ne retomba. L'événement me laissa baba. Après une attente inquiète, je repris ma marche vers la quête de ma quotidienne gazette, plus un petit café noisette. Un peu plus loin, sur mon chemin, je croisai un ronchon voisin qui, habituellement, m'ignore. Il m'offrit un salut sonore. Ce salut, aujourd'hui, m'honore. Il a une voix de ténor, me dis-je, souriant in petto. Je lui répondis aussitôt. J'entrai dans le bar tabac journaux, vis que tous, clients et proprios arboraient le même sourire. J'entendis même quelques fous rires. Mon café crème, pour une fois, fleurait le bonheur et la joie. Un bien-être presque orgasmique rentré chez moi m'envahit à la lecture du périodique. Ça disait que dans chaque pays régnait justice, fraternité, respect de l'autre, égalité, que partout la démocratie dominait, souveraine aussi. J'y lisais qu'aucune religion n'était prétexte d'oppression, aucune trace de fascisme, de nazisme ni de racisme dans les pages de cette feuille, rien qui ne vienne choquer mon œil. Je téléphonais dubitatif à des amis, dont les propos chaleureux et explicatifs m'ont dit que ce n'était pas pipeau. La belle forêt amazonienne, pas d'incendie, pas de haine, pas plus qu'en Libye ou Ukraine. Des pôles aux zones équatoriales, le désarmement général décidé depuis très longtemps a stoppé les conflits à temps. Aucun individu infâme ne bafoue plus les droits des femmes. La biodiversité, partout défendue, respectée par tous. Reposant l'appareil, je compris. En lançant mon caillou, je me suis pris les pieds dans une fêlure du continuum spatio-temporel. C'est pas un rêve, c'est bien réel. Cette révélation a de l'allure. Savoir que j'essaie d'écrire des vers dans un des nombreux multivers, le seul peut-être, où, sur notre globe, nous sommes juste d'heureux microbes, conscients de notre fragilité, respectant la vie sans l'exploiter, me fait du bien et me rassure. Je dois vous quitter. Rien n'est jamais vraiment sûr. Il faut que j'aille sur le champ vérifier qu'il n'y a rien de méchant sur le trottoir et ça m'agace qu'elle n'ait pas retombé, ma caillasse.
Et sur mon trottoir les dimanches de printemps, lorsque tombe le soir, je m'en vais en flânant, lorgnant d'un œil moqueur les automobilistes sages qui regardent passer les heures coincés dans un embouteillage. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. J'aime me promener sous la pluie sur des routes peu fréquentées, entre les champs et les prairies, seul tout seul avec mes pensées, mais parfois un as du volant passe près de moi en m'arrosant. Je suis pas d'un naturel méchant, mais une pensée m'effleure pourtant. Je continue longtemps ma route, même si je suis très fatigué, et je ne désespère sans nul doute de le retrouver dans le fossé. Moi, je fais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Vous allez me traiter de vieux, mais cela n'a pas d'importance. Je suis en cela très sérieux, car je mesure les différences. Je crois que là réside le drame, considéré vaille que vaille la voiture comme un tas de ferraille, plutôt que comme une deuxième femme. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Un jour passant au bois de Boulogne, par une dame fus abordée. Elle me proposait sans vergogne, avec elle de batifoler. Son programme était alléchant, laissez augurer des délices. Et comme j'avais un peu de temps, je laissais là courir mon vice. Viens vite, monte dans ma voiture, dépêche-toi mon gros chéri. Avec une belle désinvolture, d'un air sérieux, je lui ai dit: moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, comme ça je suis sûr d'arriver. Car de nos jours il est normal d'empoisonner tous ses voisins. C'est le caractère principal de l'homme dit évolué moyen. Il est passionné de vitesse, de chromes et de carburateurs, même si parfois il serre les fesses, dépassé par son moteur. Et moi, vais à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. Moi, je vais à pied, comme ça je suis sûr. J'ai lu dans un journal sérieux qu'un corbillard plein jusqu'au nez, le pauvre n'avait trouvé mieux que d'y ramper un peu plié. Il allait au dire du baveux à une vitesse affolante. Au lieu d'un mort, il y en eut deux. C'est une solution charmante. Mon testament, je viens de faire en deux mots. Oui, car je vais mourir, c'est sûr. Mais j'ai fait coucher par le clair, encore en deux mots. Mon corps n'ira pas en voiture. J'irai à pied, comme ça je suis sûr d'arriver. J'irai. Je suis sûr d'arriver.
Yvon Étienne, moi je vais à pied, une chanson des années 70, souvenir, souvenir, et dont les propos restent, hélas, d'actualité. Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr. Nous enchaînons avec William Fourchet qui explore pour nous l'univers normand des boissons alcoolisées. Voici donc le premier épisode d'une chronique proustienne, chronique intitulée « La goutte ».
Ce soir, j'ai bu une goutte exceptionnelle. Je ne vous dirai pas avec qui ni où, cela n'a aucune importance. Et il y a des secrets à garder. Quand on la respire, la pomme envahit le nez, se faufile dans tous les replis des cornets. La puissance de l'arôme est telle que tous les autres parfums apparaissent. Vanille, épices, bois. Crânement, j'ai fait tourner le liquide dans ma bouche. Les bouquets se sont dévoilés. Puis, en avalant la gorgée, brutalement, depuis la langue, sous la langue, jusqu'au palais, le feu s'est déchaîné. C'est qu'un alcool à 65 degrés, ça chauffe. Ça donne du cœur, mais ça chauffe. Alors toujours crânement, on se dit que c'est une boisson extraordinaire. Pas seulement pour la teneur en alcool, mais parce qu'on peut la boire. Non pas parce qu'on se croit capable de la boire, mais parce qu'elle est arrivée jusqu'à nous. 65, mais aussi parce qu'elle a vieilli longtemps, en fût, et attendu ensuite presque 65 ans dans sa bouteille. Elle a vieilli longtemps, certainement longtemps. Sa couleur ambrée, très ambrée, presque foncé, en témoigne. Et puis aussi, parce que le bouilleur qui l'a remonté de sa cave a fait revivre cette époque où les alambics se promenaient de ferme en ferme. Cette époque où les chevaux qui tiraient les alambics n'étaient pas à vapeur. Oui, ce soir-là, j'ai bu un calva extraordinaire. 65 degrés, ça chauffe. Oui, je l'ai déjà dit, mais ça chauffe vraiment. Les historiens... Les archéologues voyagent dans le passé pour reconstituer une poterie, une statue, une histoire. Ce soir-là, c'est le passé qui a voyagé vers nous.
La semaine prochaine, William aura une approche, disons, historico-scientifique de cet univers normand des boissons alcoolisées. Mais revenons en Normandie avec carte postale à ma cousine qui habite au bord de la Méditerranée. C'est une chanson de Sanseverino et heureusement que les Normands ont de l'humour.
Je pense fort à toi, ma cousine, en regardant le littoral. Tu es au chaud, je t'imagine, ça me remonte le moral. Ici le printemps, c'est l'hiver, tu es toujours la bienvenue. Il neige sur les primes verts et les cerisiers sont tout nus. Débarque en Normandie, va pas t'épiler le maillot. Ici pas de mini-kini, mais des moules et des bigorneaux. Sitôt arrivé ma mère. J'ai bien étalé ma serviette. Et puis après, y a rien à faire. Il fait trop froid pour faire trempette. Y a pas un chat sur la falaise. Panorama, une belle arnaque. Les gros nichons, les gros balèzes sont blindés dans leur anorak. Si tu débarques en Normandie, va pas t'épiler les gambettes. Ici pas de minikini, mais des pêcheurs en salopette. Moi qui voulais me rincer l'œil, des jolis seins sous le soleil, sentir les odeurs de mon œil, le sable entre mes orteils. Deux mamies en bonnet de bain s'entraînent pour le jour de l'an. Comme un con, j'ai même pas de pain pour exciter les goélands. Si tu débarques en Normandie, va pas te tailler le minou. Ici pas de minikini, mets les bottes jusqu'aux genoux. Moi qui croyais mater des culs quasi méditerranéens, la Manche m'a beaucoup déçu. Les Normandes sont des boudins. Salut pour moi les cerfs-volants et les pédalos qui déboulent. Ici on porte des collants pour éviter la chair de poule. Je pense fort à toi ma cousine, en regardant le littoral. Tu es au chaud, je t'imagine, ça me remonte le moral. Passe le bonjour à tes copines, dis-leur que je viens cet été, que nous irons à la piscine. Si la mer est trop démontée, surtout qu'elle se taille le minou, qu'elle s'épile les gambettes et sorte le minikini. Je débarque de Normandie.
Dans le gang des podcasteurs, nous avons la chance de compter une conteuse. Et franchement, il n'y a que ça qui compte. Magdeleine, c'est à vous.
Lorsqu'il m'arrive d'apercevoir un grand arbre isolé en plein milieu d'un champ, il me revient toujours en mémoire ce vieux conte indien, à la sagesse bien plus profonde qu'il n'y paraît à la première écoute. C'est l'histoire d'un arbre prodigieux qui poussait en Inde depuis bien longtemps. Si longtemps que les anciens le disaient aussi vieux que la terre. Immense et majestueux, on ne voyait que lui sur la plaine pauvre et aride. Mais lui restait toujours vert et portait des fruits toute l'année. De son tronc énorme s'élevaient deux grandes branches qui ployaient sous le poids des fruits dorés et luisants. Ces fruits magnifiques attiraient les mains des enfants. Mais les enfants, on leur apprenait vite l'étrange vérité, car si tous les fruits se ressemblaient, la moitié était empoisonnée. Croquez dans un fruit vénéneux et vous tombiez mort, foudroyé. Une branche portait la vie, l'autre portait la mort. Mais quelle branche nourrissait? Laquelle tuait? Nul ne savait. Alors, on regardait mais on ne touchait pas aux fruits de l'arbre. Et les années passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un printemps glacial ravage les vergers, suivi d'un été trop sec qui brûle les moissons. Plus de récolte, plus de bétail. La famine s'installe dans tout le pays. Seul le vieil arbre reste immuable sur sa plaine desséchée. Le feuillage toujours vert, les fruits plus beaux et plus attirants que jamais. Les villageois, craintifs et indécis, se rassemblent autour et se perdent en discussions confuses. Il faut choisir, mourir de faim ou risquer de mourir empoisonné. Alors, un vieil homme s'avance. Son fils est mourant, il n'a plus rien à perdre. Il saisit un fruit, le croque, le recroque à nouveau et reste debout, le souffle bien heureux. Fou de bonheur, tous se bousculent à la suite et se précipitent sur les fruits de cette branche. Des fruits sucrés et juteux qui nourrissent et qui désaltèrent en même temps. Au fur et à mesure qu'ils sont cueillis, miracle ! D'autres fruits repoussent aussitôt tout aussi délicieux. C'est l'arbre de vie. Les villageois font la fête et se gorgent de fruits pendant 8 jours en riant de leur frayeur passée. Le ventre rassasié, ils se mettent alors à regarder l'autre branche, la mauvaise. Leurs yeux sont remplis de haine et de rancune. La maudite. À cause d'elle, on a tous failli mourir de faim. Elle est dangereuse et inutile. Il faut la battre. Et le cœur joyeux, à la tombée de la nuit, il la coupe au ras du tronc à coups de hache vengeur. Mais le lendemain, c'est la stupeur. L'arbre est sec et tout rabougri, les feuilles racournies, le tronc noirci sous l'écorce brûlée. Tous les fruits sont tombés et pourrissent dans la poussière sous le soleil de plomb. Même les oiseaux ont fui. Privé de sa moitié mauvaise, l'arbre n'a pas survécu. Il est mort. Ainsi va la vie, faite de tout et de son contraire. Et ce tout a souvent besoin de son contraire. Si vous allez un jour en Inde, allez voir quelques vieux sages. Ils vous raconteront mieux que moi l'histoire de cet arbre prodigieux que les anciens appelaient l'arbre de vie. Ce bel arbre qui, disait-on, était aussi vieux que la terre.
Et c'est sous cet arbre de vie que nous nous quittons. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jean-François, William et Mag. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. Et quand vous voulez sur balado-gazette.fr. D'ici là, portez-vous bien et à ciao.